deux mercredis par mois à 17h30 sur 91.2. Retrouvez les ateliers des Valouna, l'émission qui écrit à vos oreilles. Lecture de textes de toutes sortes écrits en atelier.
Des formats courts, toujours.
Des nouvelles.
Poétiques sûrement.
Théâtrales peut-être.
Inclassables parfois.
Écrit libre.
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 Écrit libre. Écrit libre. Questionner l'histoire officielle. C'est le titre de cette émission spéciale SECD, durant laquelle vous entendrez des extraits de la pièce « Explosion, une bombe nous attendait à la gare » de Diana Vivarelli. Mémoire des attentats fascistes du 2 août 1980 à la gare de Bologne. Vous allez entendre Diana Vivarelli elle-même et Jean-Luc Alliot parler des attentats dans lesquels tous deux ont été blessés. Ils parlent aussi du procès qui a lieu actuellement à Bologne et de ce qui émerge enfin du silence, 42 ans plus tard. Explosion, prologue.
Le samedi 2 août 1980 est un samedi comme tant d'autres. C'est le premier samedi d'août, comme le 4 août 1974, jour où le train Italicus est déchiqueté par un engin explosif aux alentours de Bologne. La bombe doit exploser à Bologne, mais le retard du train va l'empêcher. 6 ans après, les terroristes s'y essayent une nouvelle fois. Encore une fois, ils choisissent Bologne, symbole de démocratie civile et de solidarité sociale. Ils choisissent la gare de Bologne. Ils choisissent 10h25, heure de pointe du trafic ferroviaire. Ils veulent un massacre, c'est une hécatombe. 85 morts, 218 blessés. Les parents des victimes ont perdu leurs proches les plus chers. Les blessés ont laissé à la gare des morceaux de leur corps. Tous emporteront les traces à vie, les traces physiques, morales, sociales. Des années d'enquête et de procès ont permis de déterminer l'implication des néofascistes, loge maçonnique P2 et des services secrets. Aujourd'hui, ils sont tous libres. Les néofascistes du groupe des NAR, noyau armé révolutionnaire, condamnés comme exécutants matériels de l'attentat, sont Valerio Fioravanti et Francesca Mambro. Francesca Mambro, 95 morts, 8 condamnations à perpétuité, n'est plus en prison depuis 2001. Elle a passé en prison 2 mois pour chaque mort. En 2004, on a accordé la liberté conditionnelle à son mari Valerio Fioravanti. 93 morts, 7 condamnations à perpétuité. Désormais, sa peine est éteinte, son casier judiciaire vierge. Depuis la fin de la guerre, il y a eu en Italie 14 attentats terroristes avec un nombre effrayant de morts et de blessés. Les coupables n'ont jamais payé. Tout cela veut dire « vous devez oublier ». Vous devez oublier toute l'histoire, passée, présente et future.
Vivre sans mémoire permet de recommencer à l'infini la même histoire, comme si de rien n'était. Vivre sans mémoire permet de manipuler l'opinion pour nous faire croire que les terroristes sont des héros romantiques. La mémoire est notre racine, notre graine. Elle est la condition pour bâtir le futur. Sans mémoire, le futur n'existe pas. Le passé n'existe pas. Notre identité n'existe pas.
Je fais partie des victimes de l'attentat terroriste d'extrême droite du 2 août 1980 à la gare de Bologne, où 85 personnes ont trouvé la mort et 218 ont été blessées. J'ai donc écrit une pièce de théâtre autobiographique en italien et en français sur cet horrible massacre. 30 ans il m'a fallu après les faits. Donc explosion, une bombe nous attendait à la gare.
La douleur de la blessure dans le dos, la douleur à la jambe, les bleus sur mon corps se confondent avec la pitié et la tragédie, avec le sang et le désespoir des morts et des blessés. J'avais une robe violette, des boucles d'oreilles de l'Équateur, un petit sac à dos, un sac avec des sandwichs et des friandises. À la gare, atmosphère de fête, on part en vacances, on plaisante et on attend tranquillement l'autocar. Nous prenons un café au bar de la gare.
Les serveurs plaisantent entre eux. Des touristes allemandes sont assises à une table. Je les dévisage en songeant combien il est agréable de voyager. Dehors, assis sur mon petit sac à dos, je pense à des choses sans importance. Tout à coup, j'entends un bruit d'éclat, léger, ouaté. Je me retourne. J'entends une violente explosion et je vois l'immeuble entier se soulever dans le ciel.
L'explosion, le vacarme, la bombe. Je vois un gros nuage en champignons déchirer la gare à un mètre de l'endroit où je me trouve. Je suis submergé par une vague de pierres, poussière, cailloux, verre et violemment plaqué à terre. Le souffle de l'explosion me projette plusieurs mètres plus loin. Les gravats me tombent dessus. Mais je ne m'arrête pas. Je continue à courir.
Je n'ai pas le temps d'avoir peur. Pendant que je cours dans l'obscurité, j'aperçois un taxi devant moi. Je l'enjambe avec quelque saltérétique, j'évite les blocs de pierre qui continuent de tomber et je continue à courir plus rapide qu'une fusée. Mon pied boiteux ne boite plus, j'ai l'agilité d'une championne aux Olympiades. J'ai les regards perdus, les visages couverts de sang, les mains, les cous, les dos ensanglantés.
Ma robe violette est trempée. J'ai des éclats de verre et de métal plantés partout. Je n'y vois plus d'un œil. Il me semble l'avoir perdu. Je déambule au milieu des morts et des blessés, muets et ahuris comme moi. Éparpillés partout, bagages, vêtements, chaussures, sacs à dos, sacs de couchage, morceaux de corps humain, mains, bras, pieds.
Une dame s'approche. Je lui demande : excusez-moi, je ne sais pas si j'ai encore mon œil. La dame me nettoie le visage avec un mouchoir et dit « Oui, l'œil est là. Ni peur, ni douleur physique. Dans moi la rage. Ça n'est pas juste, pas juste, pas juste. Pourquoi ? À cause de quoi ? Qui ? Quoi ? Comment ?
Au lieu de montrer les responsables comme des héros, héros du fascisme d'ailleurs, héros de la dictature, je voulais faire résonner la parole des victimes, héros malgré eux, tombés comme les résistants pour la liberté. Mais qui nous a offert médaille et reconnaissance ? Avons-nous peur ? Ben bien sûr, nous avons affaire avec des monstres sanguinaires, très fourbes, très préparés, aidés par l'État à un très haut niveau. Pour les combattre, il faut s'inspirer des luttes d'émancipation des femmes, par exemple. Il faudrait que nous, les victimes, nous arrêtions de croire que si on est bon, digne et posé, ils nous laisseront tranquilles. Assez de questions du style « Quel souvenir avez-vous de ces jours ?» Je préférerais qu'on me pose la demande « Mais vous voulez quoi ? Vous avez eu quoi ? Vous pensez quoi ?» Les pleurs font vendre, mais pendant qu'on pleure, on ne pense pas. Et au lieu de faire pleurer, je voulais prendre la parole, répondre aux assassins qui trônent dans les articles de presse. «
Il est des discours dont l'horreur le dispute à l'ineptie et qui pourtant, comme un négatif de l'humanité, ressurgissent de loin en loin, d'époque en époque. Dans la scène qui va suivre, un général se prépare à comparaître devant le tribunal. Explosion, scène 2.
La sécurité est mon affaire. Ma devise, ordre et obéissance. Nous vivons une époque extrêmement dangereuse pour les valeurs les plus sacrées. Travail, famille, patrie. Je dirige les services de sécurité militaire, le service secret des services secrets. Mes chères victimes, je peux vous appeler ainsi, n'est-ce pas? L'épreuve a été rude, mais je vous assure que l'histoire, avec un grand H, l'histoire ne vous oubliera pas. Que représente-t-il en effet quelques dizaines de cadavres, quelques centaines de blessés face à la menace qui nous guette, face au destin de notre patrie? Détails, broutilles, me condamner, moi, le serviteur fidèle, l'exécutant scrupuleux. C'est pour vous, chers messieurs, chères madames, pour assurer votre sécurité, votre prospérité, pour vous assurer un avenir radieux et confortable, pour vous laisser dormir tranquille, pour vous garantir ordre et sécurité. Qui d'autre pouvait mener un combat sans merci contre les ennemis de notre patrie? Vous voulez un meilleur pouvoir d'achat? Vous voulez travailler moins? Vous voulez la tranquillité sans vous salir les mains? Eh bien, tout cela se paie. Notre bien-être coûte des bouts de corps humains, hommes, femmes, enfants. Notre bien-être nécessite des gens comme moi, prêts à travailler dans le noir et le silence. J'espère que, encore une fois, je serai lavé de tout soupçon, de partialité ou d'abus de pouvoir. Moi, l'humble serviteur de l'ombre, je suis prêt à assumer la responsabilité de mes actes. Contrairement à ces mauviettes de politique qui me donnent carte blanche pendant la nuit et se rétractent lâchement au petit matin. Les lâches devaient être internés. Les noirs, les handicapés, les faibles nuisent au bon fonctionnement de la société et devraient être éliminés. Les bouges inutiles aussi. Pourquoi les supportons-nous? Ordre et sécurité. Servir et obéir. Qu'elles avancent, les soi-disant victimes du système. Qu'elles montrent leur visage. Un tribunal n'est rien sans preuve. Et les preuves que vous cherchez sont classées secret d'État. La justice ne tient qu'à un fil. Si vous essayez de couper ce fil, je vous empêcherai de le faire pour le bien de notre communauté.
Ce général, terroriste au service de l'État, est-il un simple personnage de fiction, une caricature, un personnage ne ressemblant en rien à ceux qui ont existé?
Non, ce général terroriste existe bien. On ne peut pas le nommer parce qu'il fait des procès à tous ceux qui osent donner son nom. Et il a bien été organisé par les groupes fascistes des NAR et non par les Brigades Rouges, comme on l'a parfois dit, autant en France qu'en Italie. Et il a bien été exécuté par les services secrets militaires italiens. C'est un crime d'État, comme je le soutiens dans ma pièce. Et aujourd'hui, c'est confirmé par les procès qui ont eu lieu depuis 40 ans, 42 ans exactement. Grâce aussi à tout ce qui a été fait par les associations, l'association des victimes de cet attentat, qui a tout mis en œuvre pour que ça soit en mémoire, que Bologne devienne une ville mémoire de cet attentat. Avec une détermination sans faille, avec un goût pour la recherche de la justice, de la vérité qui a dépassé, je crois, le traumatisme de toute la ville et de toute l'Italie, pour un devoir de vérité, un devoir de mémoire. Le président de l'association, il a dit une phrase qui m'a donné envie d'écrire cette pièce, « Transformer un acte de mort en acte de vie ».
Août 2010, scène 11, l'heure des bilans. Sylvia.
Cette expérience m'a changé. Elle m'a aussi appris beaucoup de choses. J'ai appris à me méfier des apparences. J'ai appris à ne pas juger sans connaître l'autre côté du miroir.
Carlo.
J'ai appris à ne pas m'arrêter devant les difficultés, à persévérer.
Pierre.
J'ai appris que le vrai et le faux peuvent s'entremêler, que nous pouvons dépasser l'horreur en le transformant en pulsion créative. J'ai appris à garder la mémoire vivante pour les générations futures.
Michel.
J'ai appris à regarder mon passé en face, à ne pas en avoir peur. J'ai appris que cette histoire nous concerne tous, parce qu'elle est en rapport direct avec la politique française et européenne.
Sylvia.
À Nantes, ville qui résista héroïquement aux troupes d'occupation, beaucoup de monde me pose des questions sur la poussée de l'extrême droite, sur le phénomène Berlusconi et à ses répercussions sur les idéaux fondateurs de nos républiques de l'après-guerre.
Sylvana.
Les fascistes redressent la tête, se mobilisent dans les stades, dans les rues, siègent au gouvernement. Résultat, le racisme se banalise. Les discriminations sont monnaie courante. Des milices se mobilisent pour chasser les étrangers et réprimer ceux qui dérangent, qui protestent, qui osent s'opposer.
Sylvia.
Le patriotisme se transforme en chauvinisme.
Pierre.
L'histoire nous a montré où cela a mené le monde.
Carlo.
Ma mère, qui n'a pas fréquenté l'école publique, mais l'école de la résistance, disait que le fascisme naît du je m'en foutisme, prospère sur la misère et s'ancre dans l'ignorance.
Sylvia.
Notre histoire personnelle est peut-être une tragédie, une histoire banale, où les innocents ont perdu et les bourreaux s'en sortent victorieux.
Sylvana.
Peut-être aussi qu'un jour, tout cela changera.
Sylvia.
La fin de cette histoire n'a pas encore été écrite. Tout est encore possible. Je ne peux oublier vos visages. Je ne veux oublier vos vies.
Mémoire personnelle et mémoire collective. Histoire de personnes victimes de l'histoire. La pièce « Explosion » s'achève sur ces extraits du recueil « Antologia per un strage »« Anthologie pour un massacre » du poète Gian Pietro Testa.
Numéro 25. Antonino, je m'appelle. Je suis ouvrier. J'ai traversé l'Italie pour chercher du travail et finalement pour me faire tuer. C'est mon histoire. Numéro 34. Je suis John, maman. J'ai perdu mon sac et le nouveau pullover que tu m'avais donné en cadeau. Mais vraiment, qui pensait mourir dans une terre étrangère comme un soldat?
Numéro 48. Et je suis Antonella. Et ça peut paraître étrange en ce monde violent. Mais ma mère a déjà préparé ma robe de mariée.
Numéro 27. Moi, par contre, je rêvais l'Italie, la terre des doux poètes. N'est-ce pas amusant?
Numéro 31.
Prends soin de toi, Eleonore. Ils m'ont dit en partant. Ce fut un léger baiser, une embrassade à toute vitesse, un salut rapide, pour un au revoir, à tout jamais.
Numéro 72. Soyez tranquille, bureaucrate de la mort. Soyez tranquille, fonctionnaire de l'homicide. Soyez tranquille dans vos tanières, qui ne sont pas des tanières, mais des bureaux propres. Soyez tranquille, personne ne vous cherche.
Numéro 79. J'ai entendu pendant des jours une musique étrange, comme un roulement de tambour s'éteindre lentement avant de mourir.
Numéro 83. J'ai dû, maman, connaître le monde en un bref instant. J'ai dû, maman, faire un grand saut, comme si j'avais vécu toutes mes années. J'ai dû, maman, connaître la haine. Mais je te cherche encore, maman. Je t'en supplie, une berceuse.
Numéro 82. Je n'ai pas écrit sur mon cahier qui parlait des rues, de villes, de rencontres et de petits amours rêvés. Je n'ai pas écrit que j'espérais encore changer le monde. Ainsi soit-il, camarade de ma vie. Une hérédité, je vous laisse. Et déjà, vous la connaissez.
Cette histoire n'est pas finie. En ce moment même, le procès se tient à Bologne. Nous en sommes au réquisitoire de l'accusation. C'est le procès du cinquième homme impliqué dans cet attentat qui a été reconnu sur une vidéo d'un touriste allemand qui a pris cette vidéo juste 10 minutes avant que la bombe explose. À l'époque, ces fameux personnes impliquées s'appellent Paolo Bellini. Avait été disculpé par sa femme. Sa femme s'est séparée, a divorcé de lui entre-temps et 40 ans après a reconnu que c'était bien lui qui s'est trouvé sur les lieux de l'attentat. Ce personnage est un ancien militant de l'organisation néofasciste Avanguardia Nazionale et aussi un tueur repenti de la 'Ndrangheta, ce qui est la mafia calabraise.
Mais comment se fait-il que l'on reparle de ces attentats 40 ans après? Il n'y a pas eu prescription?
Il y a eu la crainte d'une prescription il y a 3 ans, mais des nouveaux éléments ont permis de suivre la piste du financement de l'opération à travers une toute petite note qui a été retrouvée sur Licio Gelli, le mandataire de cette opération. Et donc, ça a été découvert que tous les attentats des années des plans ont été financés par les mêmes personnes, et ainsi que l'enlèvement et l'assassinat du premier ministre de l'époque, Aldo Moro.
Les années de plomb, c'est bien les années 70-80.
Oui, on peut les nommer aussi les années de la stratégie de la tension.
Revenons au financement.
Selon l'hebdomadaire italien L'Expresso en décembre 2020, les financements de l'attentat étaient effectués via des comptes suisses à travers la banque Ambrosiano par un montant de 5 millions de dollars américains qui ont été volés à cette banque Ambrosiano qui est en fait la banque du Vatican qui a été mise en faillite par le banquier Roberto Calvi. On procède de plus en plus des personnes mises en cause. Hein. Plusieurs autres prévenus ont été interrogés. Il y a eu des membres des services de renseignement militaire italien. Eux, ils ont été condamnés à des peines plus légères, entre 7 et 10 ans de prison, pour entrave à la justice, puisqu'ils ont ralenti la recherche de la vérité. C'est donc celui qui a organisé, payé les attentats, et c'est Licio Gelli, qui est un fasciste depuis toujours, était très ami avec Mussolini, et ensuite il a été impliqué dans les services secrets de la CIA.
Mais pour le compte de qui ?
Ben justement, la piste mène à des officiers des bases américaines de la CIA, des services secrets américains, donc une à Bergame et l'autre à Livourne. Il faut dire qu'il y en a beaucoup des bases américaines en Italie. Et disons qu'elle a été découverte dans ces procès qu'en 1948, l'année où elle a été écrite la Constitution italienne, il y a eu un pacte entre l'Italie, laquelle avait perdu la guerre, ne l'oublions pas, et les États-Unis, selon lesquels les services secrets militaires italiens étaient assujettis à la politique de la guerre froide décidée par l'Amérique. Pourquoi ? Parce que les partis communistes, avec 33% des votants à l'époque, étaient un danger majeur. Il était impossible que les communistes entrent dans un gouvernement. Donc, on a chargé les fascistes de les décimer.
Si j'ai bien suivi ce que tu nous apprends, tous ces innocents ont été tués juste pour faire accuser les Rouges de terrorisme.
Entre autres, oui, ça servait à faire taire les communistes, ça servait aussi à imposer la politique américaine à l'Europe. Disons qu'il y avait une convergence de... Ça servait à la mafia pour s'imposer. Il y avait cette convergence d'intérêts qui ont créé une déstabilisation totale de l'Italie et ont amené Berlusconi à être au pouvoir pendant 20 ans.
La pièce « Explosion » a été écrite et jouée pour la première fois en Italie, à Carpi, en 2010, puis créée à Nantes en 2011. 15 représentations ont eu lieu en 2011 dans les Pays de la Loire et à Avignon, puis entre 2013 et 2014, la pièce est repartie en tournée pour une vingtaine de représentations avec la compagnie Azimut Théâtre. En 2014, Explosion a été créée à Bologne par Teatro Subito et tournée dans le nord de l'Italie. La pièce Explosion vient d'être publiée pour la deuxième fois aux éditions L'Armatan. Merci Diana Vivarelli et Jean-Luc Alliot pour votre témoignage. Vous avez entendu la musique de Daka Braka, un groupe ukrainien que les auditeurs peuvent entendre dans toutes nos émissions puisque nous avons choisi leur voix et leur musique pour le générique de début et de fin. Road, le CD créé en 2013 lors de la révolution ukrainienne, est précédé d'une dédicace plus que jamais d'actualité. À tous ceux qui donnent leur vie pour notre liberté, ceux qui continuent à rester debout et, sans perdre espoir, suivent le chemin plein de défis des êtres libres. L'émission est réalisée par Sylvie Beauget. Voix Marie-Jeanne, réalisation technique Luc Richard. Vous pouvez la réécouter en podcast sur le site de Jet FM à la rubrique Les ateliers des Valounards.